Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, César Yao.
Bonjour à tous, voici le sommaire de ce mardi 7 heures. Un symposium de lutte contre les désordres climatiques se tient en ce moment même à Abidjan avec des forces armées de 25 pays du monde. Objectif, renforcer la coopération et les dispositions face aux conséquences du changement climatique. Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a procédé récemment à l'inauguration à Bondialé de l'usine de transformation de la noix de cajou d'une capacité journalière de 50 tonnes, soit 18 000 tonnes en. Elle permettra d'offrir 15 000 emplois directs aux jeunes et aux femmes et plus de 70 000 emplois indirects. Dans l'actualité internationale présidentielle au Rwanda, le président sortant Paul Kagame en tête avec 99,15% des voix selon des résultats partiels. Aussi Potin passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour. Et en fin d'édition, l'invité de la rédaction, Soro Adams, recevra Ago Christian Kodia, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification au centre des échanges, le processus d'identification des personnes physiques vivant en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous, climat, paix et sécurité en ouverture de ce journal, un symposium sur les implications sécuritaires du changement climatique s'est ouvert hier lundi ici même à Abidjan. Pendant 3 jours, plusieurs forces armées issues de 25 pays, y compris la Côte d'Ivoire et les États-Unis, prennent part à des ateliers de réflexion en vue de renforcer la coopération et les dispositions face aux conséquences du changement climatique. Compte rendu signé Ghislain Koulibaly.
Les désordres climatiques nous concernent tous.
Ici, le directeur général des affaires stratégiques de l'armée ivoirienne, le général de brigade Diarasouba Bakary, alerte sur la gravité des phénomènes climatiques de nos jours.
Et il y a besoin et nécessité de se rencontrer et de voir comment les attitudes adoptées pour faire face à ce fléau qui est aujourd'hui installé, qui va certainement s'aggraver.
Tous les pays doivent se mobiliser face à cette situation et ce symposium organisé par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, US Africom, est une aubaine, nous dit Jessica Davisba, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire.
Ce forum donne ses opportunités pour nos partenaires et pour nous de travailler ensemble, côte à côte, avec nos collègues militaires, avec nos collègues civils et aussi avec la facilitation de the US Institute of Peace qui va encourager un partenariat qui peut être durable pour l'avenir.
L'un des partenaires clés pour la mise en marche de ce projet, c'est bien l'Institut américain pour la paix, représenté par Dr. Tegan Blaine, directrice du programme Climat, Environnement et Conflit, qui nous partage ici un cas concret.
Quand il y a des tempêtes, il peut être une inondation dans les terroirs de l'armée. Ça peut faire des problèmes pour avoir l'armée pour aller faire son travail.
Ce symposium d'Abidjan sur les défis sécuritaires et climatiques vient après celui de Gaborone au Botswana, tenu l'an dernier.
Le chef du régime militaire au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'en est pris jeudi dernier à ses voisins ivoiriens et béninois, les accusant de vouloir déstabiliser son pays. Ces relations tendues entre le Burkina Faso et ses voisins pourraient avoir des conséquences fâcheuses au niveau sécuritaire, puisqu'il y a une absence de coopération dans la lutte contre le terrorisme dans leurs frontières communes. En tout cas, c'est l'analyse de la situation que fait William Assanvo, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité.
Alors, il faut peut-être signaler que ce n'est pas la première fois que le président Burkinabé lance de telles accusations pour le cas de la Côte d'Ivoire. C'est effectivement la première fois qu'il évoque aussi le Bénin, mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est la deuxième fois que de telles accusations sont portées. Alors, je pense que ce nouvel épisode illustre l'état de méfiance, l'état de défiance dans lequel les relations entre le Burkina Faso et plusieurs de ses pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin, se trouvent. C'est véritablement, je pense, qu'un épisode qui rend encore beaucoup plus compliqué la nécessaire coopération qu'il est nécessaire d'avoir entre ces pays-là, notamment pour faire face à la problématique sécuritaire alimentée par l'activisme des groupes terroristes. Donc c'est une page assez problématique de la coopération au niveau bilatéral et même au niveau régional en Afrique de l'Ouest.
Faut-il s'en inquiéter sérieusement?
Oui, il faut s'inquiéter de cette absence de coopération entre les pays de la région. Il faut s'inquiéter de la fracture qu'on observe depuis plusieurs années, la fracture au niveau du bilatéralisme, donc de la relation entre plusieurs pays de la région. Et c'est véritablement des évolutions qui ne sont pas de nature à permettre à la région de se retrouver pour faire face aux défis multiples auxquels elle est confrontée, notamment la crise sécuritaire.
William Massanvo, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité Juinpa sur Adams. Les élèves sous-officiers gendarmes de première année de la promotion 2023-2025 ont été présentés récemment devant le drapeau national. Ils sont au total 1407 élèves, gendarmes, sous-officiers qui ont pris l'engagement de défendre les biens, les populations et les institutions de la République à l'école de gendarmerie de Torogué. Une occasion saisie par le commandant supérieur de gendarmerie, le général Apollo Touré, pour rappeler ses nouveaux élèves au respect de la discipline et des lois, mais également à se détourner de la corruption. Compte rendu signé Jean-Noël Kwame.
Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apollo Touré, a insisté dans son intervention sur le respect et la défense du drapeau national.
Élèves sous-officiers de première année, vous avez devant vous le drapeau national. Pour nous rappeler notre appartenance à la même nation, vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national contre toute forme d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême.
Il a également invité les élèves sous-officiers à s'éloigner de la corruption tout en veillant à la protection des biens et des populations.
Vous devrez être discipliné, incorrompu, un malhonnête, quelqu'un qui ne réfléchit que par la corruption, comment faire pour dépouiller la population, il doit même être considéré comme voleur au sens le plus large du terme. Alors, il ne mériterait pas d'être gendarme. Il n'y a pas de pardon en gendarmerie. Si vous décidez de servir honnêtement, de respecter la population, les biens des personnes privées comme des personnes morales, si vous décidez d'aimer votre pays et de ne pas le dénigrer ou le salir, alors la gendarmerie est votre maison et vous y ferez forcément bonne carrière.
Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a en outre invité les parents des élèves sous-officiers à continuer de leur prodiguer de sages conseils dans l'exercice de leur mission et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, de retour de Torogué, Radio de la Paix.
Direction région de la Bagoué, le Premier ministre Robert Bugrimambe a procédé en fin de semaine dernière à l'inauguration de l'usine de transformation de la noix de cajou de Bondialé. Selon le chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire est partie de 2011 avec 400 000 tonnes de transformation brute de noix de cajou, soit 9% de sa production contre 1,2 million de tonnes en 2023, soit 22% de sa production. Cette performance a favorisé la construction en 2023 de 35 unités de transformation brute de noix de cajou, correspondance régionale Tommy Corona.
Entendre le Premier ministre, la machine de la transformation de l'anacarde est désormais lancée, Robert Bugrimambe.
Cette usine que vous voyez, c'est la première étape parce que selon le programme déterminé par vos enfants, par nos ministres et par les investisseurs qui font confiance à la Côte d'Ivoire et qui font confiance à Bondialé, cette usine sera multipliée par deux.
Maria Toukone, maire de Bondialé et ministre de l'Éducation nationale, mentionne ici l'impact positif multiforme de cette infrastructure ultra moderne.
Elle commence aujourd'hui avec 50 tonnes par jour, soit 18 000 tonnes par an. Mais à terme, ce sont 90 000, voire 100 000 tonnes qui seront transformées localement. On irait jusqu'à 150 000 tonnes selon l'évolution. L'usine emploie 2000 personnes aujourd'hui. Mais à terme, nous aurons 6000 emplois directs et 10000 emplois indirects. Cette usine est une aubaine pour l'environnement.
Initiative louable et salutaire au dire des populations. Témoignage.
Madame Dao, c'est une grande opportunité pour nous. C'est permettre d'abord à la région de se développer en donnant de l'emploi aux jeunes pour ne pas qu'ils s'adonnent à des pratiques pas bien. Et ça fait partie du développement.
Soro Kartiawa Emile, au-delà de l'aspect économique, une grande marge de la population qui va bénéficier d'emplois.
Bâti sur une superficie de 10 hectares dans le village communal de Tombougou Samoroso, cet établissement est le plus grand d'Afrique de l'Ouest en matière de traitement et de transformation de l'anacarde. Tommy Corona, de retour de Bundiali, Radio de la Paix.
Et nous restons toujours à l'intérieur du pays pour parler du processus électoral. À Bouaké, le commissaire central de la commission électorale indépendante pour la région du Gbeke, le professeur Yapo Yapi, a rencontré récemment les leaders politiques, les représentants de la société civile, le corps préfectoral, les ONG et les associations communautaires. Écho de cette rencontre avec Joseph Fassalé, notre correspondant sur place.
L'initiative de cette campagne sur le processus électoral a une finalité au dire du superviseur de la CEI, Commission électorale indépendante pour la région de Gbeke, professeur Yapo Yapi.
Fait en sorte que les élections ne fassent plus peur et que chacun parle des élections en toute connaissance de cause.
L'exposé du commissaire central de la CEI pour le Gbeke a tourné autour des acteurs directs de l'élection, à savoir le candidat et l'électeur d'une part, et d'autre part sur les acteurs indirects, comprenant entre autres les agents des bureaux de vote, les ONG et les observateurs. À l'occasion de cette rencontre, le superviseur de la CEI, professeur Yapo Yapi, a fait des recommandations.
Un électeur ne doit pas accepter d'aller transporter la citoyenneté que nous sommes venus promouvoir. Ensuite, les partis politiques, quand ils mettent des représentants dans les bureaux de vote et que ces représentants ne font pas leur travail, ils rejettent la faute sur la CEI. Donc chacun doit jouer son rôle pour que tout se passe bien. Il faut que les gens se calment pour que les choses se passent normalement.
C'est Congo Juste, un vice-président de la jeunesse communale de Bouaké.
Nous, en tant que jeunes, on a déjà initié des tournées déjà dans les quartiers pour ces élections à venir, que nous voulons apaiser.
Mais du côté du PDCI RDA, on revendique plutôt Maître Blessy Chrysostome.
Équilibrer la CEI, la dissolution de la CEI en son état actuel.
À cette rencontre de la CEI, les partis politiques ont brillé par leur absence, à l'exception du PDCI et du RHDP. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale présidentielle au Rwanda, le président de ce pays, Paul Kagame, est en tête de l'élection. Le président sortant, bien entendu, il est en tête de cette élection avec 99,15% des voix selon des résultats officiels partiels portant sur 79% des bulletins dépouillés, annoncés hier lundi soir par la commission électorale. Le candidat du Parti démocratique Démocratique vert du Rwanda, Frank Habineza, a obtenu 0,53%. Le candidat indépendant, Philippe Mpayimana, a obtenu 0,32%. Des résultats provisoires complets sont attendus le 20 juillet avant la proclamation des résultats définitifs le 27 juillet. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Aoussi Potin. Bonjour Potin.
Bonjour à vous César, bonjour à toutes et à tous. Hier donc, lundi 15 juillet, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a procédé dans la commune d'Abobo au lancement officiel de l'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire. Vaccination contre le palu, Begré-Mambé donne le top départ à Abobo, affiche à sa une Fraternité Matin. Quand Soir Info souligne qu'avec cette introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination, Mambé demande de livrer la guerre au paludisme. Le tabloïd lui propose donc à lire le message de Mambé aux mamans. Le Sort ivoirien proposant un extrait de l'allocution du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, titre « Lancement du vaccin antipaludique, Pierre Demba, c'est le résultat du leadership du président Ouattara ». Dimanche 14 juillet, la ville de Bonoua a vibré au rythme du meeting du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en abrégé PPACI. Et certains de nos tabloïds paru ce jour y reviennent largement. Ainsi, le temps de titrer, visite de Gbagbo à Bonoua, les leçons du meeting, puis d'ajouter ce que le peuple abouré a dit à Laurent Gbagbo. Lors de ce meeting, le président du PPACI, Laurent Gbagbo, a lancé un appel à l'union de la gauche ivoirienne. Pourquoi Gbagbo ouvre les bras à l'opposition, affiche le quotidien d'Abidjan. Quand pour sa part, l'Inter reprend à sa une un extrait de la réaction de la présidente de l'Union pour la République et la démocratie URD à cet appel du président du PPACI. Titre donc, Bonnie Claverie salue la déclaration de Gbagbo et déclare que le PPACI ne reste pas seulement les bras ouverts. Pour le rassemblement, cet appel est à prendre avec des pincettes, d'où son titre de une. Appel à l'union de l'opposition, Gbagbo se couvre de ridicule. Terminons César, restant toujours dans le tempo politique avec donc les élections de 2025. Le Patriote titre donc sur cette réunion donc du parti au pouvoir hier dans un grand hôtel de la place avec cet extrait des propos de Anne Ouloto. Anne Ouloto hier, en 2025 et après, le RHDP sera toujours là, et puis un additif du ministre Mamadou Touré. Ceux qui veulent nous voir partis peuvent continuer à rêver. Donc c'est toujours au titre donc sur la une du quotidien Le Patriote. Et puis du côté donc toujours du RHDP, Le Matin indique qu'en prélude à la présidentielle de 2025, le RHDP va former et armer ses militants pour le combat. Pour terminer, revenons à Fraternité Matin qui donc à sa une affiche toujours en rapport avec les élections à venir et se focalisant sur l'opposition ivoirienne, indique, titre du moins, opposition ivoirienne, Gbagbo Thiam, duel à distance.
Voilà à l'instant la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Aoussi Potin qui sera de retour à 8h. À présent, l'invité de la rédaction sur Adams reçoit Ago Christian Kodia, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification pour parler du processus d'identification des personnes physiques vivant en Côte d'Ivoire. Entretien.
Bonjour, monsieur le directeur général Ago Christian.
Bonjour, monsieur Soro.
Un acte de naissance, qu'est-ce que c'est exactement et quelle importance pour l'homme?
Un extrait d'acte de naissance, c'est le document par lequel l'administration ou l'État reconnaît un individu qui peut être un national ou pas forcément un national, mais le reconnaît dans ses registres comme étant né sur son territoire. Et c'est par cet acte-là que l'État lui donne une identité légale avec laquelle il peut évoluer, accomplir tous les actes administratifs, mais surtout bénéficier de tout ce qu'il y a comme services sociaux, voire vraiment garantir son existence légale dans le pays.
À vous entendre, l'acte de naissance est donc de la plus grande importance.
Tout à fait, un acte de naissance, c'est vraiment un document très très important qui garantit vraiment la citoyenneté, la vie d'une personne dans la société dans laquelle il vit et lui permet d'interagir avec tout le corps social et économique de son pays.
Et quand peut-on obtenir l'acte de naissance et comment peut-on l'obtenir?
L'obtention de l'acte de naissance, c'est surtout à partir de la déclaration de naissance. Donc, dès l'instant que la déclaration de naissance survient, que ce soit en milieu hospitalier, ce que nous encourageons fortement, ou malheureusement pas en milieu hospitalier, il faudrait tout de même que cet acte-là soit déclaré. Donc la première étape, c'est la déclaration de la naissance ou bien du fait d'état civil qui peut être aussi une naissance ou un décès. Et donc l'information est portée à l'attention de l'officier de l'état civil, qui est le maire ou le sous-préfet, ou la personne qui a reçu mandat pour, et donc cette personne va enregistrer cette personne dans des registres. Et c'est sur la base des informations que maintenant on va délivrer un acte de naissance ou un extrait d'acte de naissance.
Monsieur le directeur général Ago Christian, 3 millions d'Ivoiriens seraient sans acte de naissance et une naissance sur 5 ne serait pas déclarée dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous confirmez?
Je pourrais tout de suite dire qu'on parle de 3 millions de personnes, mais pas nécessairement d'Ivoiriens, parce qu'en matière d'état civil, on a le principe de la déclaration universelle. Donc, toute personne, ivoirienne ou non, qui est sur l'étendue du territoire ivoirien, tous les faits doivent être portés à la connaissance de l'état civil ivoirien. Donc, c'est 3 millions environ de personnes, mais pas forcément 3 millions d'Ivoiriens. Ça veut dire naturellement qu'en termes d'Ivoiriens, il y aura sûrement un peu moins, beaucoup même moins, comparé au recensement général de la population. Maintenant, de ces 3 millions de personnes qui ne sont pas déclarées, il faut maintenant mettre en place tous les systèmes qui vont permettre à l'administration de se rapprocher d'eux et de faire en sorte qu'on peut plus facilement capter leurs déclarations.
Parce que l'administration serait loin de ces personnes ou qu'est-ce qu'il explique?
Pas toujours. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un maillage territorial en termes de sous-préfecture ou même de commune assez élevé. Mais le plus souvent, lorsqu'une naissance arrive, ou un décès, se déplacer pour venir au niveau de l'administration pour faire la déclaration et puis retourner, ça fait un peu beaucoup. Mais le plus souvent, l'administration qui veut vraiment faciliter la tâche aux populations met tout en œuvre pour être présente exactement le plus proche possible des personnes pour augmenter ce taux-là pour que les déclarations soient de plus en plus facilitées. Mais la déclaration incombe aux parents ou à toute personne qui a connaissance d'un fait d'état civil. Et la loi a même évolué, qui a étendu la durée de déclaration qui était au départ de 15 jours. Maintenant, on a 90 jours pour pouvoir faire la déclaration.
Vers les populations, dites-vous, l'administration va aller. Question de se rapprocher de celle-ci. Ça veut dire quoi?
En fait, maintenant, le nouveau système fait en sorte qu'on parle maintenant de points de collecte communautaire et de points de collecte sanitaire. Donc, du coup, y compris dans la communauté, déjà, les déclarations peuvent se faire dans la communauté à travers le représentant communautaire qui est désigné par le sous-préfet, par un arrêté, ou bien au niveau de la sage-femme lors de la naissance dans un hôpital. Et ces faits-là sont automatiquement captés dans la base de données de l'ONESI qui permet plus rapidement de donner un essai de date de naissance.
Alors, dans ce cadre, quel est le message que vous adressez aux populations relativement à l'importance de déclarer les naissances?
Le message principal qu'on peut donner, c'est qu'aujourd'hui, l'existence légale d'une personne fait partie de ses droits. Comme on dit, une identité n'est plus un privilège, c'est un droit. Et donc, l'État met en place toutes les infrastructures, tous les moyens nécessaires pour que chaque personne née en Côte d'Ivoire puisse bénéficier de ce droit-là. On souhaiterait vraiment que toutes les personnes qui sont dans une situation où ils n'utilisent pas leur date de naissance ou n'ont pas été déclarés, profitent par exemple du contexte de la loi spéciale de rétablissement d'identité de déclaration de naissance pour pouvoir obtenir leur numéro national d'identification et obtenir un extrait date de naissance qui maintenant est sécurisé et unique et va leur permettre d'accomplir tous les actes de la vie civile. Donc j'appelle vraiment toutes les populations à nous faire confiance, à venir dans les mairies, dans les sous-préfectures, auprès des officiers d'état civil où nous installons le nouveau dispositif qui donne maintenant un état civil beaucoup plus sécurisé. Et la chose la plus importante maintenant, dès l'âge de 5 ans, vous pouvez faire votre carte nationale d'identité et avoir votre NNI.
C'était le message de l'ONESI et de son directeur général.
Merci beaucoup, M. Soro Adams.
C'est à nous de vous dire merci, M. le DG.
Voilà, c'était Soro Adams qui recevait Ago Christian Kodia, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui met un terme à cette édition. Tout de suite, le rappel de l'essentiel. Un symposium de lutte contre les désordres climatiques se tient en ce moment à Abidjan avec des forces armées de 25 pays du monde. Objectif, renforcer la coopération et les dispositions face aux conséquences du réchauffement climatique. Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a procédé récemment à l'inauguration à Bondiali de l'usine de transformation de la noix du cajou d'une capacité journalière de 50 tonnes, soit 18 000 tonnes en. Elle permettra d'offrir 15 000 emplois directs aux jeunes et aux femmes et plus de 70 000 emplois indirects. Dans l'actualité internationale présidentielle au Rwanda, le président sortant Paul Kagame en tête avec 99,15% des voix selon des résultats partiels. Voilà, c'est la fin de ce mardi 7h. Retour à l'actualité 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.